Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler temps qui court, tous les soirs, une heure, un ou une artiste. Ce soir, la joie de recevoir Amira Khazar.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler,
ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Amira Khazar.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Un roman de la transformation. Voilà comment on pourrait présenter L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, vaste fresque au vaste succès que je n'ai pas lu mais que j'ai écouté. Depuis lundi sur notre antenne et déjà en ligne pour 10 épisodes, le texte est dit et joué pour la fiction du soir et vous êtes la voix, Amira Khazar, qui nous racontait la sortie de l'enfance par le désir de savoir, le désir de connaissance, par le désir tout court. Celle qui nous racontait Naples sous le regard de deux jeunes filles découvrant la mafia et le marché noir. Celle qui nous racontait la complexité des amitiés longues et profondes, tissées de fidélité, de jalousie et toujours d'élan. C'est trop rare de parler de radio à la radio. On s'est dit que d'une part, ça nous est très plaisir, que d'autre part, on le ferait plus souvent et que c'était une occasion rêvée de parler avec vous de la passion des mots, de l'art dramatique, des femmes, des voix, du son. Bonsoir, Amira Khazar.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Une amie prodigieuse d'Elena Ferrante, donc réalisée par Sophie Haute-Picon et adaptée par Victoire Bourgois, en ce moment sur France Culture et quand on veut sur franceculture.fr. Tout ça en attendant de vous voir regarder des films et puis les juger au Festival de Cannes, puisque vous serez jury de la semaine de la critique, et puis de vous voir à la télévision, parce que vous venez de terminer le tournage avec Rebecca Zlotowski d'une série pour Canal+, qui s'appelle Les Sauvages, ce sera à l'automne. Encore à venir pour 2019 et 2020, un film de Caroline Fourest, Sœur d'armes, et enfin un film de Tarek Davoud, Yaban. Tout ça qui vous met en scène dans des rôles bien différent. C'est aussi la puissance de ce que c'est que de raconter des histoires, puisque vous êtes, je le disais, la voix qui raconte. Ça ressemble à quoi un studio de fiction radiophonique quand on pousse la porte, Amira Khazar? Pas celui-là, hein?
Non.
Celui où vous fabriquez des fictions.
Bah, quelle belle question. Bah, d'abord, il y a la solitude. On est avec les autres, mais on est isolé, surtout quand on est la narratrice. Et c'est un chemin sinueux, long, solitaire, où parfois on perd pied parce qu'on sait, on n'a plus le retour de sa voix. Ça passe par la détestation de soi-même. Ça passe par des moments où on se dit, bon, peut-être que là, j'ai un peu trouvé quelque chose, un ton juste. Mais comme on n'a pas le retour de ce qu'on fait, on est dans l'abandon et dans la confiance par rapport au regard que pose la metteuse en onde, je ne sais pas, metteuse en scène, Sophie Haute-Picon.
C'est beau, c'est beau.
sur la tonalité qui doit être donnée. Et c'est très beau et j'aime beaucoup faire ce travail parce que j'ai besoin de pas être dans l'image. J'aime bien être une comédienne protéiforme et bon, pluridisciplinaire. C'est un peu comme ça que j'ai été formée et que j'ai voulu me former et que j'ai voulu m'inventer, voilà. Parce que je crois beaucoup à ça, à s'inventer. J'aime beaucoup Oscar Wilde. J'aime énormément Byron. Ce sont mes amis de jeunesse, ces poètes rebelles. Voilà. Et ils ont énormément... Cécile Beaton aussi, mais Baudelaire aussi, évidemment. Parce que la France a été très importante pour moi. J'ai eu cette chance de grandir entre les deux cultures. Et les poètes rebelles, les poètes non conformistes, m'ont beaucoup aidé dans mon enfance. Et c'est vrai que je viens aussi d'une famille où le son est très important. Peut-être dans la famille de ma mère, ils écoutaient beaucoup la BBC World Service pendant la guerre. Et ma mère aime beaucoup la radio. Et j'ai une grand-mère qui s'endormait avec la radio. Et j'ai compris combien la radio, enfant, était importante, était un compagnon de vie et de nuit. et de misère et de chagrin et des joies et une présence forte.
Ouais, c'est marrant parce qu'en présentant, je me suis dit, vous êtes la voix et j'ai presque failli écrire dans le chapeau, vous êtes la main. Parce que dans la manière que vous avez eu d'enregistrer, alors probablement, voilà, accompagné aussi par l'équipe, mais d'enregistrer cette voix, j'ai vraiment eu l'impression, moi, qu'on me disait, allez, viens. Ok, je t'embarque, mais je t'embarque physiquement. Je vais te raconter, je vais tourner les pages, quoi. Comme le plaisir de raconter une histoire à un enfant ou s'asseoir avec une amie pendant une journée et lui lire à voix haute un bouquin, de cet ordre-là.
Ouais. Bah merci. J'espère. Je pense que c'est un peu le but parce que Elena Ferrante est quelqu'un de très mystérieux. Je pense que elle parle de ce qu'elle connaît et de ce qu'elle connaît pas peut-être, mais de ce qu'elle je pense qu'elle a connu intimement. Et j'aime beaucoup cette idée qu'elle se place dans un endroit d'opacité, dans cette époque où tout le monde se met en avant, où tout le monde veut exister pour tout et n'importe quoi, où il y a une espèce de narcissisme très inquiétant. Je trouve qu'Elena Ferrante prend le contre-pied et se met à un endroit où elle est une fine observatrice, mais qui a vécu. Un petit peu à la manière de Proust, c'est-à-dire que je ne veux pas comparer son écriture à Proust, mais Proust n'est qu'une évocation, finalement. Et Elena Ferrante se place au-dessus de sa propre histoire, de sa propre mythologie, et elle évoque cette parole pleine, cette expérience très charnelle et très, très poétique et très physique de son enfance. Et cette, comme vous dites, cette longue amitié. Et c'est très étonnant qu'elle ait envoyé ce manuscrit à son auteur, qu'on sache pas vraiment comment elle s'appelle. Je trouve ça très beau.
Ce texte-là, vous l'avez travaillé.
Vous voyez ce
comment
que je veux dire par rapport à cette opacité qu'elle crée.
Peut-être qu'il faut rappeler que c'est quelqu'un qui
ne veut pas être en avant.
Oui, voilà, qui recherche l'anonymat.
Absolument.
Pour continuer un petit peu à parler de ce travail, je sais pas, ça dure combien de temps? Vous lisez le texte, vous venez plusieurs fois en studio, vous faites tout d'un coup. Comment ça se passe, Amira Casar?
Alors là, particulièrement, je tournais, donc tout le mois de janvier-février, je tournais. Donc France Culture a très généreusement ils se sont adaptés aussi à mon plan de travail, mais j'ai fait une lancée tous les matins de 9h à 13h avec une petite pause de 3 minutes. C'était très physique. Il y a des contingences de temps à respecter, mais je sentais quand même... ils étaient avec moi. Les ingénieurs du son, Sophie Haute-Picon, qui est vraiment une linguiste. Elle a fait Normale Sup, elle est issue de cette école-là. C'est une grande spécialiste de la langue française. Et c'est ça qui est beau, c'est que moi je suis pas vraiment française, j'ai envie de l'être. Hein. Depuis des années, je me sens adoptée ici. Mais c'est vrai que Sophie, on progresse, on apprend. On avait travaillé ensemble live à Avignon sur les oiseaux de bois de Asli Erdogan. Encore, j'aime pas dire écrivaine, encore un écrivain femme.
Autrice? Non plus.
Non, je sais pas.
Ok, comme vous voulez.
Et c'était passionnant aussi. J'apprends à travailler autrement, j'apprends à rentrer dans son monde, parce que je le dis toujours, mais je pense que je suis assez baudelairienne dans le sens que où je pense que ce qui m'intéresse, c'est de m'adapter à l'univers d'un metteur en scène. Je pense que c'est l'invitation au voyage, et c'est à moi de m'adapter, et je peux pas arriver avec mes valises. Je pense que le vide et le plein font vraiment partie de ma vie. J'arrive avec mes valises pleines, que je dois vider, ou j'arrive avec une valise vide que je dois remplir.
C'est une bête, c'est un animal sauvage, en fait, je crois. Qu'on peut essayer d'apprivoiser comme l'amour dans Carmen, mais qui vient, c'est exactement comme dans Carmen. Vous l'appelez, vous ne l'appelez pas, il est là. Ça vient, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ça vient sous la forme dans laquelle ça vient, en fait. Pourquoi parfois elle est claire, pourquoi parfois elle est plus sourde, pourquoi parfois elle est haute, pourquoi parfois elle l'est pas, pourquoi elle refuse le milieu de la tessiture, pourquoi elle le refuse pas. Je crois que c'est vraiment un animal sauvage. C'est une des difficultés de ma pratique d'actrice et aussi de dans ma vie que de savoir comment les unifier, toutes ces voix qui sont en moi. C'est pas une chose facile pour moi. Et c'est une chose qui me crée des problèmes, peut-être que c'est justement à partir de ces problèmes-là que je travaille aussi, cette question-là. Qu'est-ce que c'est que parler de sa propre voix? Ce sont toujours les miennes, parce que ça, j'ai pas tellement de problèmes de... Vous savez, il y a des gens qui parlent pas dans leur voix. Bon, moi, c'est pas ça, c'est toujours les miennes. Mais laquelle, pourquoi, qu'est-ce qui fait l'unité entre toutes ces voix? Ça reste encore aujourd'hui une question pour moi.
La voix comme un animal sauvage, c'est Jeanne Balibar au micro de Laure Adler. En 2017, Amira Kazar, en vous écoutant être cette narratrice, donc en fait on vous entend quand même énormément dans l'adaptation radiophonique, vous êtes toujours présente, je me suis dit que c'est comme si vous aviez trouvé un endroit pour raconter cette histoire, mais comme un endroit dans votre corps, qu'il y avait une voix pour cette histoire.
Oui, oui. Je connais Naples, j'ai eu la chance de connaître Naples. D'abord, je voudrais féliciter et dire bonjour à ma camarade de loin. J'étais au conservatoire avec Jeanne et on a joué ensemble et c'est beau ce qu'elle dit. Elle est très intelligente et c'est très poétique ce qu'elle dit et je suis assez d'accord.
Sur le fait qu'on a plusieurs voix?
Oui, complètement. Moi, je me considère un caméléon, totalement. J'aime bien faire de la place pour l'autre. Je pense que je suis une comédienne, si je dois me définir, qui aime faire de la place pour l'autre en cherchant l'éternel ailleurs. Parce que je le veuille ou pas, je suis enfant d'exilé. Ma propre mythologie est construite comme ça. Et j'ai toujours, je crois, depuis l'enfance, cherché, peut-être parce que je suis hautement nostalgique, cherché cette notion de l'éternel ailleurs. Mais je pense que j'aime faire de la place pour l'autre, l'autre en moi. Et en m'imaginant Naples, que je connais bien, comment dire, Naples est une ville d'odeur. C'est une ville où il y a eu tellement, il y a eu les Espagnols, les Arabes, les Normands, la domination Habsbourg. Donc il y a tout ce melting pot, ce brouhaha, c'est comme une ville arabe. L'Italie est là, le sud de l'Italie, le baroque est là, tout fourmille comme ça. Et il y a ce volcan autour. Et je trouve que peut-être que pour moi, ça m'a évoqué aussi ce que certaines personnes m'ont pu me raconter ou des photographies que j'ai pu voir de la Perse des années 50, où il y avait le néo-réalisme, où il y avait les cinémas Rex, où il y avait, vous savez, les gens qui... Très napolitains, quoi. Le bruit, les gens parlaient dans les cinémas, mangeaient des... Comment ça s'appelle? Les graines de courge.
Des pipasses, là?
Les trucs de courge, voilà. Ces odeurs. Je trouve que Sophie Haute-Picon a réussi vraiment dans cette fiction, cette chose de on sent les saveurs, on a les bruits avec nous, et elle a réussi à... On a plusieurs strates de son, on a plusieurs ambiances sonores. Et ça, c'est très très beau, c'est très réussi. Et elle n'est pas tombée dans l'écueil de la mièvrerie de l'enfance, parce qu'il y a de la cruauté aussi. Dans cette relation, il y a...
Dès le premier épisode.
Il y a aussi « J'ai envie d'être toi ». Il y a terriblement « J'ai envie d'être toi ».
Et je jette ta poupée.
Et l'autre, c'est moi.
Mmh. Et alors, pour en revenir aux voix...
Et un problème d'identification.
Bien sûr.
Et moi, comme actrice, j'ai aussi ce problème d'identification.
C'est-à-dire?
Ben, l'autre, c'est moi, moi, c'est l'autre. Donc, il faut faire de la place pour l'autre. Et j'ai toujours eu un problème d'identification parce que je n'aime pas qu'on m'étiquette. Et je pense que quand je disais plus tôt dans mes interviews plus jeune que ma provenance c'était les cuisses de ma mère, d'une façon extrêmement païenne, je le pense parce que je pense que je suis une grecque, mais je pense aussi que j'ai avalé Phédo et tout ça. Donc je n'ai pas envie d'être enfermée et malheureusement parfois... J'ai eu cette chance aussi de jouer des femmes de toute confession, de toute religion, des femmes qui font des métiers, et des femmes fortes, et des femmes fragiles, et c'est ça que j'ai envie d'explorer. Et ce n'est qu'une longue exploration dans ma boîte de Pandore, parce que je collectionne les rôles. J'ai entendu Père dire ça, et j'ai trouvé ça très beau. On collectionne les rôles, en fait. On collectionne les âmes, les... Voilà.
Et ça rend plus difficile ou ça rend plus facile le défi que c'est de parler dans sa voix, pour reprendre les mots de Jeanne Balibar, collectionner les autres en soi, collectionner les rôles, interpréter. Est-ce que ça vous permet d'être encore plus riche et de parler avec une plus grande voix, Amira Kazar, ou est-ce que ça perd?
Non, en tout cas, moi j'évite, j'aime pas, pour moi, je n'aime pas trop de maniérisme. Donc c'est quelque chose que je refuse et que j'éloigne de moi. Mais si vous voulez, je peux vous faire Catherine Hepburn, je peux vous faire Karl Lagerfeld, je peux vous faire d'autres personnes. Mais en fait, je dois trouver ma voix à l'endroit juste et authentique de l'histoire que je vais raconter. Par exemple, quand
donc c'est
fait...
toujours vous, en fait.
Mais qu'est-ce que c'est, moi? Moi, c'est l'autre, l'autre, c'est moi, encore une fois. Oui, mais en même temps, quand j'ai fait Madame Munoz, par exemple, pour Bertrand Bonello, j'ai pris une voix avec un accent d'Arcachon, parce que j'avais entendu la voix de cette femme. Mais après, j'essaye de faire de sorte que ce soit crédible et que ce soit authentique. Et ça, c'est mon travail d'actrice. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'enlève, finalement? Parce que mon travail, c'est de gommer, aussi. Gommer les scories, gommer... C'est beaucoup plus facile de rajouter que de gommer. Donc,
j'avais peur. J'essayais de suivre Lila qui avait l'air en colère et allait tout droit à la recherche de sa poupée. J'avançais à tâtons. Je fus très effrayée par une espèce de visage flasque aux grands yeux de verre dont le menton s'allongeait en forme de boîte.
Lila, là un monstre.
Je le vis accroché sur un petit moine en bois avec son expression désolée. Elle s'approcha lentement de l'objet en me tournant le dos, tendit une main précautionneuse et l'enleva du moine. Puis elle se tourna. Elle avait mis le visage aux yeux de verre sur le sien et maintenant elle avait un visage énorme aux orbites rondes sans pupilles, privé de bouche, avec ce menton noir en galoche qui pendait sur sa poitrine.
Ce n'est qu'un masque, un masque à gaz. C'est comme ça que l'appelle mon père. On a le même dans le débarras à la maison.
Je me calmai. Lila regarda autour d'elle et repéra l'ouverture d'où nous avions fait tomber Tina et nous. Nous nous approchâmes du mur rugueux et granuleux et regardâmes dans l'ombre.
Elles sont pas là. Elles sont pas là. Elles sont pas là.
Et Lila fouillait par terre avec ses mains, ce que moi je n'avais pas le courage de faire.
Ah là, voilà. Oh non, c'est une vieille page de journal roulée en bleu. Regarde là-bas dans le coin, il y a un truc par terre. Non, c'est un vieux sac en toile. Mince, on cherche encore? Elles sont pas là, je te dis.
Lila se dirigea vers la sortie. Alors je me sentis perdue, incapable de rester là toute seule à continuer les recherches, incapable de m'en aller avec elle si je n'avais pas trouvé ma poupée.
C'est Donna qui les a prises. Il les a mises dans son sac noir.
À cet instant même, je l'entendis. Donna qui il est. Il rampait, se frottait contre les formes indistinctes des objets. J'abandonnais Tina à son destin et m'enfuis pour ne pas perdre Lila. Aller chez Donna Kiley, c'était interdit. Mais Lila décida de le faire quand même et je la suivis. Ce fut même cette occasion qui me convainquit que rien ne pouvait l'arrêter et que chacune de ses désobéissances débouchait sur des prodiges à couper le souffle.
Lila, je veux pas y aller. Mais si, c'est rien, n'aie pas peur.
Nous voulions que Donna Kiley nous rende nos poupées. C'est pour ça que nous montions les escaliers. Même si à chaque marche, j'étais sur le point de faire volte-face et de retourner dans la cour.
C'est un extrait du premier épisode, donc, de la série radiophonique, l'adaptation du texte de d'Elena Ferrante, l'amie prodigieuse, Amira Kazar, et on vous entend, alors évidemment, par aussi la magie du montage radiophonique, presque être avec ces deux gamines que vous regardez avec bien des années, comme ça, d'écart, et dont vous scrutez les moindres émotions. C'est un texte qui parle de l'amitié, c'est un texte qui parle de la transformation, je le disais, et du rapport, par exemple, à la connaissance et à la lecture. Il se trouve que comme ça, sans qu'on vous demande rien, vous êtes devenu avec deux bouquins. Et que une des choses qui va introduire de la tension entre ces deux petites filles qui deviennent des adolescentes et des jeunes filles, c'est le désir de la connaissance et ensuite le désir tout court, mais d'abord le désir de la connaissance, la lecture, l'apprentissage du latin, du grec, l'alphabet, comment on commence à lire. Vous aviez quoi comme rapport à ça, enfant ?
Moi, je voulais sortir de mon milieu. Je voulais être moi-même et sans attache. Je voulais être moi. Et je voulais maîtriser la langue française, vraiment, sans accent. Et je suis rentrée au conservatoire, en fait, j'ai la nationalité britannique et irlandaise, et lorsque je suis rentrée, ils pensaient que j'étais française. Donc je voulais absolument gommer tout accent, voilà, je voulais vraiment rentrer comme une française.
Et c'est ça passait par les textes.
Ouais, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais J'ai perdu votre question.
Mais bah, savoir quel, mais vous y répondez d'une certaine manière. Quel rapport vous avez entretenu avec les mots et avec les textes? Bah, c'est un rapport vraiment, vraiment très profond parce que ça vous permettait de.
Ouais. Ouais. Moi, je peux parfois faire un film pour une phrase ou une pièce pour une phrase.
C'est vrai? C'est pas une formule de dire ça?
Non, 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 je vous assure. Ça m'est arrivé. Et justement, aujourd'hui, où tout se. Tout est galvaudé. J'aime bien essayer de chercher des mots précis. Et c'est pour ça aussi que j'aime faire la radio. J'aime ce travail. Ce travail m'est précieux. Faire du théâtre m'est précieux. Faire du travail d'oratorio m'est précieux. Travailler la voix, la musique, Courtval, que je voudrais faire plus tard, c'est une ambition que j'ai, mais précieux.
Mais vous voulez dire que le cinéma vous éloigne du texte? Que c'est souvent plus lointain?
Pas toujours. Pas avec Breya. Pas quand j'ai fait l'anatomie de l'enfer, non, parce que là c'était extrêmement textuel, donc le non. Mais ça peut. Et j'ai besoin de revenir aux mots. Ça m'ancre, ça me. Vous voyez? Ça met les choses en place.
Ça veut dire que par exemple la langue anglaise, elle est restée loin de vous?
Non. J'habite vraiment ces deux territoires, même un peu l'allemand, l'italien un peu. Le persan que je ne lis pas et que je ne sais pas écrire, mais que j'ai entendu, que j'ai dans mon oreille et que je sais parler. Voilà. Un peu le russe, mais j'ai entendu beaucoup, beaucoup de langues. Un peu le japonais, parce que ma mère y a un peu grandi, donc un peu beaucoup, dans son enfance. Donc si vous voulez, j'étais habituée à plusieurs sonorités dans l'enfance. Peut-être des langues issues du sanskrit. Donc j'ai une facilité pour les langues et j'aime les langues. Mais j'ai toujours aimé les mots et en Angleterre, on avait des cours d'élocution avec une vieille dame qui s'appelait Mrs. Boylan, qui arrivait dans sa vieille Rover avec sa vieille fourrure toute usée. Elle devait avoir, mon Dieu, 80 ans.
Mais
elle
non.
Je vous assure, elle était toute voûtée, elle arrivait avec une sorte de radiateur. De toute façon, elle s'asseyait sur le radiateur de l'école. Et elle nous faisait réciter de la poésie très 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 jeune. Walter de la Mare, She Walks in Beauty, de Byron, tout ça. Child Harold. Et elle nous a donné cet amour-là. Mais je pense que je l'avais déjà enfant parce que j'ai eu la chance d'entendre la très très bonne musique, de la très belle musique jeune. Et là, les mots sont importants aussi. Voilà.
L'appétit qui est décrit dans le texte de Ferrante, c'est-à-dire vraiment du déchiffrement, ces petites qui vont aller lettre à la conquête du sens, ouais. Vous vous en souvenez? C'est un souvenir que vous réussissez à convoquer? Amira Khazar,
d'aller lettre à lettre pour chercher.
Ouais, vous vous souvenez de ça, de cet appétit de savoir lire?
Oui, 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 complètement, complètement. Mais ce qui me frappe dans ce livre, c'est toutes ces évocations, c'est tous ces souvenirs et la quête du savoir qui est aujourd'hui pas très sexy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui être une femme savante et presque, je sais même plus si les gens utilisent le terme bas bleu, mais c'est un peu les femmes d'autrefois, les femmes de jadis qui, peut-être dont Molière se moque dans Les femmes savantes, se moque cruellement et à la fois gentiment et avec amour et voilà, ambiguïté. Mais aujourd'hui, le savoir n'est pas très sexy. Et j'ai eu la chance de jouer un rôle, justement, avec Simon Stone à l'Odéon. Et on en parlait souvent, justement, de cette Olga qui pourrait être un bas bleu, qui est professeur, qui pourrait vraiment être une femme ennuyeuse et tout. Et je trouve que Simon Stone a réussi, malgré ce pantalon moche, avec la chair qui débordait. Tout le monde m'a dit, mais comment tu peux mettre un pantalon comme ça qui te fait une culotte de cheval énorme? Ben, je dis, ben, parce que c'est le rôle. Et que j'espère que j'ai un peu d'humour sur moi-même et j'aime bien jouer le rôle. C'est-à-dire que je place ma vanité ailleurs. Ma vanité de ma vie, c'est pas la même que la vanité que j'ai pour un rôle. J'aime devenir l'autre et je trouve que c'est un privilège quand on vous permet de l'être, justement. Et donc, j'ai travaillé ce rôle d'Olga et je trouve que Simon Stone a donné une sexualité à Olga et a rendu le savoir sexy.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui?
Je vois d'autant mieux que
tout est en surface et que les intermédiaires, les gens qu'on met en avant sont les mauvais intermédiaires. On met en avant, voilà, et qu'on est dans une époque où le contenu n'est pas important. C'est la surface. Et pourquoi j'aime les mots? Parce que j'ai besoin de m'ancrer dans quelque chose de profond, dans quelque chose qui me ramène, qui me ravive, qui me donne l'appétit de vivre. Et je le trouve auprès des poètes et des écrivains et des musiciens.
Est-ce que c'est vrai que vous vous réveillez avec ça?
To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, a chance to dream. Aye, there's the rub, for in that sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause.
Ça vous réveille tellement que vous vous levez de votre chaise, Amira Kazar. Oui. Vous parliez d'être ancré, d'être réveillé.
C'est John Gielgud. Ouais, c'est quand mots. Même, il faut le dire, excusez-moi. Je crois que c'est l'enregistrement de 1943 et je pense que c'est un des plus grands Hamlet. Et c'est John Gielgud. Et John Gielgud a eu cette chance de travailler avec Michel Saint-Denis, qui était français, et qui est allé enseigner l'école russe, cette pensée russe... Stanislavski en Angleterre, et qui a été adopté par les Anglais. Les Anglais l'appelaient Michael St. Dennis. Et nous, c'est la formation un peu qu'on a reçue.
Vous voulez dire Stanislavski?
Oui, l'école russe, je pense donc je suis. Le si magique, tout ça. L'autre, faire de la place pour l'autre. Et je reviens toujours à ça parce que c'est important. Et John Gielgud, je trouve que la façon dont il dit Shakespeare, c'est tellement beau. D'ailleurs, il y a ce souffle long, c'est assez minimal. Il est lyrique sans céder au lyrisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est contenu. Oh, c'est d'une beauté. Et je le préfère à Laurence Olivier. Et je trouve qu'il y a une sorte de minimalisme métallique. J'écoute ça le matin souvent.
Qu'est-ce qu'il y a dans les mots qui réveillent, Amira Kazar? C'est important de dire ça, parce que c'est vrai, souvent. Il y a des mots qui réveillent pour de vrai, dans le corps.
Mais par exemple, dites-moi vous.
Ah, moi, je peux vous dire qu'il y a vraiment des mots qui me réveillent, mais vraiment profondément. Mais quand je dis réveille, c'est-à-dire, oui. On va dire comme un café, quoi.
Oui, moi, c'est des mots d'opéra aussi, parfois. Le hey-ho, dans Wagner, le hey-ho, hey-ho. Aïda, quand elle dit ritorna vincitor, ouais, il y a des choses comme ça. Electre, ouais. Electra.
Ça vous met debout, quoi.
Ouais, complètement. C'est un coup de fouet et j'adore ça. Ça fait tourner le sang, ça fait vibrer. Oui, oui, j'aime bien des choses puissantes le matin, des choses dramatiques le matin et des choses drôles aussi, mais voilà, tout ça, Kurt Weill le matin, l'Otelenia, j'adore l'Otelenia, j'ai une passion pour l'Otelenia, la femme de Kurt Weill.
Vous savez, sur scène, il y a une très jolie chose que on oublie souvent ce qu'il passe avec les autres. On est un peu comme avoir des ailes, vous savez. Et ça aussi, c'est une autre chose drôle qu'on sent. On sent beaucoup des choses. On devient très sensible à beaucoup des sensibilités du public. C'est comme une...
Un état second.
Oui, 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 tout à fait. On n'appartient plus à nous-mêmes. On se sent énorme, je ne sais pas comment l'expliquer des fois, mais énorme, grande, comme prendre tout le théâtre. Dans nous, ça c'est toutes des choses dans nous. Des fois on se sent très petit, tellement petit qu'on veut s'enfuir parce qu'on a honte de ce qu'on fait. Alors il y a les deux cerveaux, que l'un, le génie, pardon, ce que vous avez appelé génie, ce que nous appelons instinct, que te jette à faire cet geste, puis tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas honte, je dois m'en aller. Et alors on est terrorisé. Alors ça, pendant le spectacle, continue à aller. Et entre-temps, tu dois évidemment chanter, penser, et créer et faire.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Amira Kazar.
Tout à l'heure, la voix de Maria Callas en 1965 qui disait beaucoup de choses et qui disait surtout, je trouve, en faisant l'accordéon avec sa voix, sur scène on est énorme et parfois on est tout petit tellement on a honte. On l'entend ici chanter l'air de Norma. Alors, d'une part, est-ce que c'est intéressant de faire la comparaison entre ce qui se passe pour un comédien ou une comédienne sur scène et ce qui se passe pour une chanteuse et un chanteur d'opéra, Amira Kazar ? Et d'autre part, est-ce que vous voyez cette espèce de manière d'enfler et de rétrécir, se sentir énorme ou se sentir tout petit, sentiment dont parle Maria Callas ?
Oui, oui. Il faut totalement être impudique quand on est sur scène. Moi, j'adore cette femme parce que je pense qu'elle cherchait pas à produire du beau. Elle cherchait pas à produire le beau son. Il y a vraiment toute sa mythologie, tout son désastre, parce qu'elle attaquait la note, elle attaque la note à l'endroit de l'attaque. Et elle a jamais essayé de tricher, enfin, je pense rarement. Et je connais des gens qui ont été au Staatsoper, une personne qui était dans le
très jeune dans le chœur et qui l'a regardée en coulisses. Je crois qu'elle travaillait à la Philharmonie de Vienne. Et je crois que le chef, c'était Karajan. Et mon ami était un de mes grands amis mélomane, mais vraiment un grand ami mélomane autrichien, qui était aussi champion de ski dans son pays, qui était dans la classe de Glenn Gould aussi, pianiste.
Ah ouais, lui aussi, il était élève.
Il a fait un stage avec Glenn Gould et il a dit plus jamais je joue du piano. Et il entendait Callas, et il a dit que c'était très honnête, c'est qu'elle attaquait la note quand il y avait le high C, l'attaque directe. Et nous devons faire la même chose. Et nous sommes peut-être plus nus. Et plus, comment dirais-je,
vulnérable,
merci, vulnérable, et parce qu'on n'a pas de filet. Alors c'est un énorme cliché de le dire, mais on l'a pas.
Mais le filet, c'est quoi du coup pour
l'opéra? Ils ont quand même la musique aussi. Hein, ils ont, il y a quand même l'appui de la musique. Nous, on l'a pas. Et c'est très étrange parce que souvent des chanteurs d'opéra que j'ai pu rencontrer dans ma vie ont pu avoir une admiration à l'endroit où nous faisons du théâtre ou des films. Parce que le film a sa difficulté, le tournage a sa difficulté aussi, et ça crée un désastre en soi aussi, dans le sens où il faut faire une prise 40, 50 fois parfois, ou 30 fois, et donc ça peut devenir mécanique. Et bon, certains soirs au théâtre, il faut arriver à avoir la même inspiration. On ne peut pas reproduire le son. On ne peut pas reproduire ce qu'on a fait la veille. C'est impossible. C'est métaphysiquement impossible et c'est mauvais. Donc il faut... C'est une nouvelle lancée, tous les soirs. Et c'est pour ça que j'admire énormément Callas. Parce qu'il y a du lait là-dedans. Il y a du beau, du lait. Tout ça cohabite comme un drôle de serpent dans ce magma passionnant... à la fois très froid, à l'endroit où elle doit être froide et glaciale, mais parce que simplement, elle met sa douleur au service de son art.
Quand elle dit « Parfois je fais un geste et je m'étonne de l'avoir fait », en même temps que je m'en étonne, je dois continuer
sa
à
sa douleur
créer...
cosmique, hein, pas que sa douleur de vie, sa douleur métaphysique. Voilà.
Pardon. Précision.
Excusez-moi.
Elle fait un geste, elle doit continuer à penser, à créer, à faire, dit-elle, tout en ravalant une forme de honte de l'avoir fait. Vous voyez de quoi elle parle ?
Bien sûr, elle le synthétise mieux que nous toutes, parce que c'est une bête de scène. C'est la bête de scène du siècle dernier. Et c'est pour ça qu'elle elle a cette chose éternelle qui touche tout le monde. Voilà.
Quand vous dites que les chanteurs ou chanteuses d'opéra peuvent admirer les comédiens ou les comédiennes à certains endroits de leur travail, vous diriez que...
Parce que je l'ai entendu, parce qu'on me l'a dit.
Parce qu'on vous l'a dit. Oui. Vous diriez qu'à l'inverse, ça vaut, qu'il y a quelque chose dans cet art-là, outre la connaissance intime et précise que vous en avez, qui vous attire ou que vous admirez, Amira Kazar?
Ben, je crois que la voix humaine est extrêmement fragile. Et voilà. Et je suis admirative de ces gens qui mettent... leur vie au service de leur art. Et il y a une telle discipline, il y a une telle hygiène de vie, ouais, une telle rigueur à respecter. Ce sont des mots que j'aime beaucoup.
Ah ouais, la rigueur, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, ouais, ça m'intéresse.
Non, vraiment, j'aime,
ouais, je comprends,
j'aime
beaucoup, mais
j'aime
beaucoup
le dépassement de soi. Pas parce que peut-être que j'ai pratiqué des sports un peu difficiles et un peu dangereux.
Comme quoi?
La crosse. Le concours
moto
complet. La crosse, c'est un sport, c'est comme du hockey le hockey sur gazon. C'est un sport anglais, anglo-saxon, on le joue au Canada aussi. C'est extrêmement dangereux. Et à l'époque où je le faisais enfant, ouais, il n'y avait pas de protecteur sur le visage. Maintenant, tout le monde est archi protégé.
C'était la castagne, quoi.
C'est très dangereux et c'est très beau. Et voilà. Donc,
Et c'est de là, c'est plus de la pratique sportive que vous tirez votre rigueur.
Bah oui, et puis les chevaux, parce que j'ai grandi aussi dans une ferme à la campagne. J'étais en pension, mais bon, je faisais des allers-retours. Et j'étais très habituée à vivre seule et à être seule et à adorer la solitude, très nécessaire pour faire ce métier. Et à soigner des chevaux et à laisser le cheval faire quand il est bon. Et c'est comme un texte, finalement. Quand vous avez un très grand texte, il y a un moment où il faut le laisser agir en vous et pas trop le manipuler, le laisser agir en vous et le laisser faire et vous laisser porter par lui.
Ça, c'est quand même une école incroyable du cheval. C'est-à-dire que si on pose un corps disponible, oui, relâché, rigoureux, mais qui laisse faire, normalement, ça roule.
Normalement, ça roule, mais c'est aussi après une question chimique. Parce que le cheval est aussi un acteur. Voilà. Il faut lui laisser de la place.
Vous étiez deux animaux, quoi, enfants.
Bah, complètement.
Le cheval est...
Et mon travail est aussi très animal. Ce n'est pas que cérébral. Et quand on dit de moi que je suis une actrice physique ou que j'utilise mon corps et que je travaille avec mon corps, je suis ravie d'entendre ça. Parce que mon corps engrange des mémoires, des sons, des choses comme le corps de chacun. Et je travaille avec. Et je ne peux pas. Voilà. Et là, je viens de faire un film, justement, où il fallait avoir un gestuel quand même très, très précis.
Tu parlais duquel ?
C'est cette série Les Sauvages, où je suis chef d'orchestre. On va pas me voir beaucoup diriger, mais quand même, le corps artistique, c'est ça. Le corps social et artistique de cette femme, c'est une chef d'orchestre qui est première femme réticente. Elle est mariée à Roche-Dizem, qui va être le président de France, qui est Kabyle. Et voilà, donc il y a tout un gestuel aussi pour les chefs d'orchestre. C'est intéressant, la main gauche, la main droite, la main gauche qui est totalement... La main droite qui donne le rythme, la main gauche qui donne les instructions, enfin... Voilà, donc une autre physicalité. Donc moi, ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est à chaque fois d'explorer une autre physicalité. Voilà, et quand on fait de la radio...
J'allais y venir, mais qu'est-ce qui reste de tout ce corps lorsque vous êtes devant un micro et que vous faites la narratrice de Ferrante? Est-ce que tout passe comme je le crois, ou est-ce que corps et voix se détachent ?
Non, il faudrait que ce soit uni. Mais on ne peut pas avoir les mouvements amples, parce que tout s'entend. On ne peut pas mettre des vêtements qui font du bruit. On doit penser à toutes ces choses-là.
Mais est-ce qu'on entend le corps de quelqu'un quand on l'entend à la radio ? Est-ce qu'on entend votre corps quand on entend votre voix, Mira Casa ?
J'espère. Oui, j'espère. Si c'est réussi, oui. Mais je suis toujours partagée entre ce minimalisme no-japonais, parce que c'est aussi dans mon ADN. Peut-être que j'ai été conçue au Japon, c'est très possible. Vu que ma mère y a vécu et qu'elle y retournait plusieurs fois. Avec mon géniteur. je sais pas, je suis très attirée par ce no, par ce minimalisme, par cette chose contenue, par cette technique. Parce que je pense que c'est un métier. Le métier que je pratique est un métier et que je n'aime pas l'amateurisme, mais parfois l'amateur le fait très bien, mais c'est un métier et il va pouvoir le faire très bien pour une fois. Mais c'est un métier, il y a un apprentissage et c'est un apprentissage à vie, un peu comme les chanteurs d'opéra qui continuent à travailler, à se remettre en question, à douter, à plonger. Voilà.
Ça, c'est quelque chose qui perdure chez les actrices. Je ne dirais pas chez les acteurs. Ça perdure. Moi, je trouve l'emploi. Beaucoup moins... Au théâtre, j'entends. Beaucoup moins... et au cinéma, d'ailleurs. Beaucoup moins chez les hommes. Mais chez les femmes, suivant le physique que l'on a, la voix qu'on a, etc., on a un emploi. Quand j'étais jeune élève au conservatoire, je n'avais pas le droit, mais pas le droit, de travailler autre chose que les servantes. Je n'avais pas le droit. Ça m'était interdit. Et je pouvais, en contemporain, travailler ce que je voulais. Mais en théâtre classique, je n'avais pas le droit d'aborder un autre emploi que celui des servantes. Donc c'était pour moi assez douloureux. Et quand je suis entrée à la Comédie Française, je n'avais pas non plus d'autre emploi. Et même un jour, Pierre Dux m'a dit « Vous êtes une soubrette de Régnard ». Donc c'était encore plus réducteur, c'est-à-dire j'étais même pas une soubrette de Molière ou de Marivaux ou de Goldoni. D'après Pierre Dux, je n'étais qu'une soubrette de Régnard. Soubrettes de Régnard sont très autoritaires, très fortes en gueule. Donc c'est peut-être pour ça qu'il me classifiait dans les soubrettes de Régnard, mais enfin c'était peut-être un peu réducteur. Et d'ailleurs, pendant des années à la Comédie Française, je n'ai joué que les servantes.
C'est Catherine Yégel au micro de Joël Gaillot en 2018 dans l'émission de saison au théâtre sur France Culture. Catherine Yégel, pour plein de raisons, Mira Casar, peut-être parce qu'elle fut l'une de vos professeurs au conservatoire, mais aussi parce qu'elle parle de ce que vous évoquiez brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire la colère contre l'emprisonnement, dû à la vision et au regard des autres. Certes, on en est, j'imagine, dépendante et dépendant quand on fait votre métier, le regard des autres, c'est un endroit d'échange, mais ça peut être aussi un endroit de prison qu'elle décrit précisément. Comment il s'est appliqué à vous, Amira Kazar, depuis ses premiers pas au conservatoire jusqu'à la carrière de comédienne de théâtre et d'actrice que vous faites?
Avec énormément d'ouverture et... Je suis fascinée par ce don de soi, ce sacrifice. C'est un métier où, comme Madame Yégel, Mademoiselle Yégel, Catherine le pratique, ça demande énormément de rigueur. Cette femme jouait la nuit, le soir, terminant tard, venant le matin pour nous inculquer sa science, comme le faisait Madeleine Marion. Et moi, j'avoue qu'elle a été extrêmement ouverte avec moi. Elle a été d'une grande générosité. Et ça a été très riche. Elle s'approchait parfois pour diriger, mais de ça, de mon visage. Quoi.
Ah ouais.
Et j'ai joué des soubrettes avec elle, parce que moi, je suis rentrée au conservatoire justement en faisant le grand écart avec Fedot, Maggie dans le Dindon, parce que justement, je ne voulais pas être cataloguée, parce que je savais que malheureusement, ce pays que j'aime tant a cette tendance de revenir et de ramener les gens toujours à l'origine, et l'origine étant aussi l'emploi. Donc moi, j'ai un peu fui ça, j'ai un peu pris le taureau par les cornes et j'ai fait ça un peu déjà au concours d'entrée. Donc je suis rentrée avec Fedot et le grand écart, donc avec les autres textes, Chimène dans le Cid, Elena dans le songe d'une unité et des rôles de soubrette. Et je fais très bien les bonnes. Je fais bien le ménage, je fais bien les bonnes. Et elle, justement, avec elle, on a, et avec Madeleine, j'ai pu faire les reines, les reines déchues, les vieilles, les Eva Perron, les. Parce qu'elles ont vu aussi un corps vieux dans la jeune fille que j'étais. Voilà. La jeune fille, jeune femme, je ne sais pas, j'aime pas ce mot femme.
Vous aimez les femmes, mais vous aimez pas le mot femme.
Bon, non, femelle encore pire. Non, mais dans le non, parce que je ne peux pas me définir dans un sexe précis. Quand je joue, parfois, je change de sexe. Voilà. Et c'est une sorte de zone indéfinie. Mais ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé avec elle. C'est qu'elle m'a fait jouer des soubrettes, des bonnes, et qu'elle a vu ce corps, peut-être ce corps antique. Ce corps qui avait vécu peut-être plusieurs siècles avant et qui n'était pas juste le ici maintenant et la petite vie de maintenant.
Chose à laquelle vous croyez?
Ouais.
Qu'on a des corps très 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 anciens dans nos corps présents?
Si on sait les écouter. Il faut les juste être à l'affût de ça et leur faire de la place.
Vous y revenez beaucoup à cette histoire-là, de faire de la place à l'autre, de faire de la place à l'histoire en nous, de faire... Mais comment ça fonctionne? Comment on le fait?
Ça, c'est ma magie. Et ça, c'est mon secret. Et je suis pas toujours sûre que ce soit intéressant de parler de la façon dont on travaille. Parce qu'aujourd'hui, toute cette opacité et on veut rendre tout visible. Et moi, je n'aime pas ça. Et c'est pour ça que j'aime venir à la radio. Et c'est pour ça que je demande à la radio à ne pas être filmée. Pas parce que je suis vieille école, pas parce que je... Voilà, c'est pas ça. Je le suis un peu et en même temps je suis, j'espère, un peu moderne. Mais parce que j'aime bien qu'à la radio, on soit à la radio. Et qu'on imagine comment on est. Qu'on imagine ce qui se passe là. Qu'on imagine quelle expression j'ai sur mon visage. Plutôt que de voir tout. Est-ce que le spectateur sent qu'à un moment donné, il y a un flottement?
L'auditeur,
je dis à spectateur, bien sûr. Parce que j'estime aussi que... Et exactement, j'estime que, merci, que quand je fais de la radio, c'est presque comme du cinéma invisible. Je dois donner corps à quelque chose sans qu'on me voie, mais qu'on m'imagine. Donc c'est une projection aussi.
Et alors, avec tout cet amour-là de l'opacité, et en effet qui n'est pas très facile à défendre aujourd'hui, vous faites comment en vous regardant à l'écran?
Oh, comme un corps étranger. Ouais. Je pense qu'il y a des femmes beaucoup plus vaniteuses et narcissiques que moi. Vraiment. Donc je regarde assez au scalpel, comme une Allemande. Et je trouve les défauts et je trouve l'endroit où je peux améliorer. Et puis je regarde en général qu'une fois. Mais je suis dure avec moi-même.
Mais vous regardez, c'est un endroit de travail pour vous.
Oui. Mais j'ai eu la chance d'avoir ces femmes. Blanche Salan aussi, qui était l'élève de Strasberg, de Stella Adler. de travailler avec Laura Benson, qui est une partenaire de vie, qui est une grande, grande comédienne anglaise, qui était l'élève de Chéreau et qui est une actrice remarquable, qui a joué avec René, Stephen Frears, tout ça. Et je pense que c'est super important de se regarder et de se remettre en question. Et l'idée de progresser me taraude et m'habite. Voilà.
C'est bien, ça tout chemin devant,
sais,
non?
Je sais pas, je suis peut-être très scolaire, je ne sais pas.
Mais justement, vous semblez avoir gardé un très bon souvenir, Amira Khazar, de cette période d'enseignement. Alors peut-être que vous avez continué d'apprendre et continuerez de le faire, mais de cette période un petit peu délimitée, quel conservatoire?
Oui, oui, parce que pour moi, c'était un grand privilège, en tant qu'exilée, en tant que apatride, enfin, en même temps, j'ai grandi en Angleterre et entre la France. J'ai connu la Perse enfant. Petite enfant, mais je n'ai pas de nostalgie de ce pays. Je refuse très souvent de parler de mes origines parce que je n'ai jamais voulu être enfermée, parce que comme j'ai une espèce de tête qui peut se prêter à peu près tout ce qui est de méditerranéen, voilà, et que j'aime jouer, je vous dire, les bonnes, les chauffeurs de bus, les boulangères, les du siège déchu, tout, j'aime tout jouer. Je ne veux pas être enfermée. Donc, et puis, j'aime pas cette impudeur de cette époque qui fait qu'on fait étalage de tout, de son enfance, qu'on raconte tout sur ses parents, parce que, voilà.
Et en même temps, c'est drôle, parce que je vous ai absolument posé aucune question sur vos origines.
Mais j'y suis venue moi-même.
Mais ouais.
Parce qu'après tant d'années où on m'a tellement posé de questions et que j'ai bifurqué, et que là, j'ai joué un commandant kurde, dans l'armée kurde qui se bat contre Daesh.
Dans un film réalisé par Caroline Fourest.
Oui, j'ai dû y faire face quelque part, parce que mon grand-père était kurde. Mon grand-père a fait Saint-Cyr, était un des pionniers de l'aviation, un des pionniers de l'aviation en Perse, dans les années tout début 30. Et c'était une grande fierté pour nous. Il parlait un français remarquable, ses cousins aussi, qui avaient fait Polytechnique. Ma petite sœur qui est normalienne, donc pour nous la France représente beaucoup. Et dans ma famille, les gens parlaient le français depuis longtemps. Donc c'est vrai que j'ai toujours voulu maîtriser cette langue et être à la hauteur de ce que la France me donnait.
Donc le conservatoire, c'était le lieu de ça, en fait.
Bah, c'était, je crois que j'ai poussé le cri le plus aigu de ma vie. Je crois que les vitraux de Sainte-Cécile ont tremblé. Voilà.
À l'obtention
du
concours.
Mal, oui, quand j'ai été reçue. Et j'ai du mal à me définir dans une religion, un contexte, un pays. C'est pour ça que je vous dis que je me sens parfois grecque, dans le sens antique ou primitive ou païenne. Parce que je me sens profondément européenne, vraiment. J'ai une chance d'avoir une carrière européenne, où les metteurs en scène, parfois étrangers, me sollicitent. Et j'ai cette chance que je veux continuer. Et je ne veux pas être enfermée. Je lutterai contre ça.
Ça a encore lieu? Vous avez encore ce sentiment-là?
Non, parce que ça ne m'arrive pas. Et quand ça m'arrive, je l'évite. Comme disait Jeanne.
Et vous êtes quel genre de spectatrice? Vous disiez, c'est un lieu de travail de me regarder, une fois, au moins, pour progresser. Là, vous allez être dans le jury de la Semaine de la Critique à Cannes. Quand vous êtes installée dans une salle de cinéma, vous êtes comment, Amira Khazar, devant les films des autres?
Accueillante. Je mets toujours de côté mes propres... J'arrive à faire ça. Peut-être parce que je voulais être historienne, que je voulais étudier le droit. J'arrive à mettre de côté mes propres ressentiments vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un mauvais traitement, vis-à-vis d'une humiliation possible ou antérieure. Et j'arrive à voir le travail avec ses yeux neutres et accueillants. Et j'espère que j'ai une rétine... Voilà, je veux pas juger, je veux me laisser emporter. J'aime pas ce mot juger, comme je n'aime pas les prix non plus, parce que c'est difficile d'être objectif.
Bah, vous allez être quand même bien embêté à Cannes quand même.
Non, mais on va débattre, c'est ça qui m'intéresse, c'est de rencontrer les autres. Et surtout mon président Ciro Guerra et Marianne Slot et les autres personnes, j'aime leurs films, j'aime les films qu'ils ont produits. Et je crois que c'est un privilège d'être en leur compagnie et... Voilà. Après, je peux pas dire ce qui va se passer. Parce que c'est justement ça que j'essaye d'éviter comme acteur. C'est d'être dans l'anticipation. C'est de vivre le présent. Parce que si c'est bien, il y a bien un métier où on doit faire don du présent. Et de vivre l'acte de présent. Acter, c'est être dans le présent. Pour moi. Pour beaucoup. et de s'abandonner. Et comme disait Simon Stone si génialement, il disait « lose control ». Je sais que vous savez jouer tous. Il nous disait « je savais que vous avez joué, je vous ai choisi. Ne me montrez pas que vous savez jouer, s'il vous plaît. Juste perdez le contrôle. Par moment, laissez-vous envahir. » Et c'est ça, je crois, qu'il faut laisser ce monstre nous envahir. Et les monstres qu'on joue. Et les monstres peuvent être gentils aussi. J'aime beaucoup les acteurs qui sont des monstres. J'aime Robert Mitchum, j'aime Piccoli. Voilà, j'aime les monstres. J'aime Betty Davis. Voilà. Ida Lupino. Et j'ai eu cette chance, peut-être très très jeune, de m'identifier à des femmes fortes. Parce que j'avais moi-même une mère très forte. Très combative, très forte, très douce, très généreuse. Mais j'ai été élevée par des femmes. Et la femme qui m'a élevée en Angleterre après était une patineuse olympique. Et c'était mon...
Bah, du côté de la rigueur.
My trainer, oui. Mes cavalières après, trainer. Elle avait abandonné après parce qu'on ne peut pas être patineuse toute sa vie. Donc, il y avait une grande rigueur. Je ne serai jamais à la hauteur de la leur. Mais enfin...
D'une autre peut-être. D'une autre rigueur.
Oui, je dois essayer. Parce que moi j'aime bien le chaos aussi. Un petit peu de chaos dans la rigueur. Parce que la rigueur, ça donne pas non plus toujours quelque chose d'intéressant. Le chaos est aussi intéressant et créé dans le chaos, dans un chaos organisé, dans un chaos de l'instant, d'improvisation. Moi, j'adore improviser. C'est génial. Et il n'y a rien de plus excitant quand on est sur scène et qu'il y a un trou de texte de quelque acteur que ce soit et que, comme tout d'un coup, un loup est dans la bergerie. Tout le monde sait qu'il se passe un truc. Tout le monde se regarde. Et en un instant, il faut une sorte de voltige. Il faut faire volte-face, tout de suite retomber sur ses pattes et inventer quelque chose. Et moi, ces moments-là, j'adore tricoter mon trou. Voilà.
Je comprends bien. Je voudrais pas que vous soyez venu avec Baudelaire pour rien. Est-ce que vous voudriez bien nous lire ce petit passage que vous aviez envie de lire tout à l'heure à Miracazar?
Je vais essayer de pas écorcher. Bah, en fait, il parle des foules. Ça s'appelle « Les foules » et c'est dans le Spleen de Paris. Et j'adore, je trouve que ça décrit bien aussi ce que je pense de l'acteur. Le poète jouit de cet incomparable privilège qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre quand il veut dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant. Et si de certaines places paraissent lui être fermées, c'est qu'à ses yeux, elles ne valent pas la peine d'être visitées.
Un grand merci à Miracazar. Vous êtes la voix pour l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante dans une réalisation de Sophie Haute-Picon et une adaptation de Victoire Bourgois. On vous verra à la télévision dans la série Les Sauvages Canal+, mais aussi dans le film Sœurs d'Armes et Gabane. Tout cela à venir. Merci à vous, à Miracazar.
Quanta gente c'è che passa intorno a me, quanta gente c'è che viene e va.
À la prise de son ce soir, c'était Nasser Moussaoui, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci à Valentin Rémy, Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassaor, qui pense et prépare cette émission avec moi tous les jours. Vous pouvez trouver les références des archives des musiques sur franceculture.fr à la page de Par les temps qui courent sur franceculture.fr. Je répète, et l'abonnement au podcast. Dans un instant, c'est le journal, 22h sur France Culture. Et puis nous, on vous dit à demain.
Que guarda sincero. È davvero un tesoro, un amico vero, ed io l'ho trovato. Succederà un giorno di incontrare un amico che va bene a te. Devi credi a me, tenerlo accanto a te, non perder quell'amico. sincero. È davvero un tesoro. Un amico vero. Ed io l'ho trovato. Io l'ho trovato. Io l'ho trovato quando ho incontrato te.